20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. C'est sans conteste la première grande découverte de l'année, celle qui dépasse le microcosme archéologique, qui trouve sa place dans la presse nationale et internationale, la découverte d'une tombe étrusque là où on ne l'attendait pas. Au large de la mer Tyrrhénienne, sur le littoral oriental de la Corse, entre Bastia et Porto Vecchio, des Étrusques se sont en effet implantés bien avant les Romains. Pour autant, voici plus de 40 ans qu'aucune grande sépulture de cette époque n'avait été mise au jour en France. Je me suis donc rendu à Aléria, où les archéologues travaillent depuis plus de 10 mois sur les pentes d'un vallon faisant face à une bâtisse en cours de construction et sur laquelle flotte déjà avec fierté le drapeau insulaire à tête de mort. Sur un terrain boueux, anthropologues, archéologues, restaurateurs œuvrent au dégagement de la chambre funéraire. À l'intérieur de ce minuscule espace, le défunt est accompagné dans l'au-delà par d'exceptionnels objets, miroirs de bronze, céramique à vernis rouge, blanc ou noir. J'y retrouve Laurent Vidal, archéologue en charge de cette fouille, et Dominique Garcia, président de l'INRAP. Laurent Vidal, on savait qu'il y avait un fort potentiel archéologique ?
Alors, les archéologues se doutaient qu'il y avait un fort potentiel archéologique. C'est pour ça que le service régional de l'archéologie de Corse avait prescrit, dans le cadre de ce projet, un diagnostic archéologique sur environ 5,5 hectares de terrain, dont une partie était l'objet d'un projet immobilier, d'une construction d'une maison individuelle.
Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce diagnostic ?
Alors sur ces 5 hectares donc, qui se situent aux portes de la ville antique d'Aléria, on a pu mettre au jour sur environ 1 hectare et demi, quasi 1 hectare et demi, une partie de la nécropole d'époque romaine.
Où se trouve la ville actuellement ?
Alors la ville est environ 300 mètres à l'ouest de notre chantier. Là.
Elle a déjà été fouillée ?
Alors elle a été l'objet de fouilles depuis les années 60 par un chercheur aujourd'hui très âgé, Monsieur Géas, et sa femme Laurence Géas.
Donc vous avez décapé, qu'est-ce que vous avez trouvé ?
Alors nous, donc, on a enlevé tout ce qui avait été remué par les labours de mise en culture agricole des années 70, hein, puisqu'en fait, avant la vigne même, c'était un terrain qui était du maquis ou qui était des terrains de pâturage, donc qui était tombé un petit peu, on va dire, en déprise agricole après l'après-guerre, et qui, avec la venue des rapatriés d'Algérie dans les années 60, avait été remise en valeur. Et donc, nous, dans notre travail, nous avons enlevé les 70 cm de sédiments qui avaient été remués par les labours. Et dessous, donc, se trouvaient les vestiges archéologiques en place. Il y a donc, au nord de cet hectare de terrain, il y a une voie contre laquelle se développait un petit espace funéraire d'époque romaine. Le diagnostic avait permis de montrer que ce qui s'échelonnait entre le 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Et au sud, au fond du vallon, il y avait une autre voie qui, elle, n'avait pas été très très bien datée, mais semblait aussi d'époque romaine et remontait le vallon en allant en direction d'Aléria.
Donc on serait sur une nécropole en bord de voie.
Voilà, c'est en gros, c'est cela, oui. C'est une nécropole qui est en bord de voie et même à l'autre extrémité donc, du terrain qui n'est pas objet de la prescription puisque lui ne sera pas touché par les aménagements immobiliers. En fait, on retrouve une voie avec en bordure un petit enclos funéraire et au moins 4 à 5 sépultures à crémation.
Donc, on peut imaginer que la ville antique d'Aléria se trouve sur la butte, que là, nous sommes sur une voie et que la nécropole se développe forcément hors de la ville.
Ah ben forcément, oui. Et elle se développe, donc là on a la limite, on va dire, extrême orientale de la nécropole, puisque sur notre emprise, en fait, les tombes ne dépassent pas un talweg, un petit talweg qui coupe le terrain en deux.
La chronologie de ces tombes est visiblement très longue.
Alors au départ, le diagnostic nous donnait comme chronologie, on va dire, 1er siècle après jusqu'au 3e siècle. Et puis là, lors de la fouille, on s'est aperçu qu'il y a des strates un peu plus anciennes qui n'avaient pas été vues du tout au diagnostic, qui sont apparues lors de la fouille.
Donc on aurait quelque chose de pré-romain ?
Alors, on a du pré-romain, hein, sachant qu'en Corse, le pré-romain, c'est très ancien, hein, puisque la Corse est conquise en 259 avant Jésus-Christ. Et donc, on a effectivement des choses pré-romaines, puisqu'on a mis au jour une tombe à chambre de type tombe étrusque, comme en avait fouillé Jean Géas plus d'environ 180 entre les années 1960 et 1985. Mais on a aussi des tombes qui peuvent être plutôt d'époque pré-romaine, on va dire, républicaine, précoce, entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, qu'on n'avait pas vu au diagnostic, et qui sont des tombes, ce ne sont pas des grandes hypogées, mais ce sont des petites tombes qui sont creusées avec une partie qui est souterraine et avec une petite chambre fermée par des tuiles.
Il y a visiblement une grande diversité dans l'architecture de ces tombes.
Tout à fait, pour l'époque, par exemple, impériale, on va avoir aussi bien des cercueils cloués que des tombes en fosse avec des couvertures de tégula ou de bâtière, ou pour les périodes plus récentes de la nécropole, des coffrages de briques avec des dispositifs plus ou moins complexes de couverture, c'est-à-dire couverts par des éléments d'hypocauste mis à l'horizontale, afin des grandes dalles, ou bien recouverts par des bâtières aussi, des tuiles déposées en bâtière.
Là-bas, ce que l'on voit, c'est justement des tuiles issues de toits antiques qui servaient justement dans les tombes.
Voilà, dans ces tombes-là, en fait, ils reconstituent un petit toit comme le toit qu'il y avait sur la maison, poussant parfois le souci du détail à remettre sur la crête, remettre des tuiles canal et les disposer aussi sur le côté. Donc là, on a vraiment le petit toit d'une maison qui est reconstituée pour le mort.
Et vous n'avez aucune incinération ?
Alors, et si, nous avons des incinérations. On en avait eu au diagnostic du côté complètement à l'ouest, en bordure de la ville. On avait eu des dépôts en secondaire en urne. Et là, dans le démarrage de la fouille, on n'avait pratiquement pas d'incinération. Et puis, au cours de la fouille, on a retrouvé donc des bûchers, notamment qui a été fouillé par ma collègue Alexia Latar, un très grand bûcher qui fait plus de 2 mètres de long sur 1 mètre de large, avec les éléments du lit qui étaient brûlés en place.
Ça, c'est assez rare de trouver des bûchers. On en a un peu en France, mais on n'en a pas souvent quand même.
On en a quelques fois. Et là, disons que ce qui est assez rare, c'est qu'on a à la fois dans ce bûcher le dépôt secondaire en urne, au centre du bûcher. Donc Alexia, qui a beaucoup travaillé à Pompéi, pour elle, c'était vraiment extrêmement intéressant de pouvoir comparer quelque chose d'assez exceptionnel pour Aléria.
C'est-à-dire que on ne met pas la tombe ou l'urne à l'extérieur, dans un trou, on enfouit l'urne dans les cendres.
Voilà, en fait, le bûcher est recomblé, et au centre de ce bûcher, on remet donc les ossements du mort qui a été crémé, on les remet dans l'urne, et c'est remis au centre du bûcher.
Qu'est-ce que vous avez comme matériel ? Visiblement, du très très beau matériel.
Alors, d'une façon générale, par exemple, pour ce bûcher, donc on a les éléments du lit, donc les pieds, qui devaient être donc un lit avec des armatures de bois. Les seules décorations qu'on ait eues, ce sont des décorations en bronze, mais bon, il y avait peut-être de très nombreuses décorations en bois dont on n'a plus aucune trace. Pour d'autres tombes, on a tout le petit mobilier, on va dire, d'accompagnement d'un défunt, surtout s'il est de sexe féminin, puisqu'on a des miroirs en bronze, des épingles de cheveux, et puis on a un petit peu de bijoux personnels qui soient portés par le mort ou qui soient mis en dépôt dans sa tombe sans qu'on soit sûr que ce soit celui du mort, et que ça pouvait être aussi celui d'un de ses parents, un de ses proches, déposé à titre, on va dire, d'offrande ou d'hommage.
J'ai vu de très belles bagues en or.
Effectivement, on a quelques bagues en or assez sympathiques, bien ouvragées. On a aussi donc quelques bagues, dont une trouvée, elle, pas dans une tombe, mais qui représente un buste féminin.
Vous avez aussi plus de 200 vases ?
Oui, alors là, les vases, on va dire que on en a, oui, on doit en avoir 250, puisque là, autant les tombes d'époque franchement impériale, c'est-à-dire entre le 1er et le 3e siècle, contiennent plutôt des dépôts de vases en verre, de petits bals amers, que de dépôts de céramique, autant les tombes qui sont plutôt, on va dire, d'époque républicaine, donc entre le 3e et le 2e siècle, elles, en général, ont une dizaine de vases. Donc ils sont aussi bien des vases en céramique modelée que des céramiques à vernis noir. Donc des importations qui viennent de l'autre côté de la Tyrrhénienne. Là, la particularité de la nécropole, cette nécropole d'Aléria, c'est d'avoir des sujets et des ossements humains bien conservés. Ce qui, à l'échelle de la Corse, est quand même relativement exceptionnel, hein, puisqu'il n'y a que deux zones en Corse vraiment importantes où on a les sujets. C'est en gros, on va dire, Aléria ou bien le secteur de Bonifacio, enfin toutes les zones calcaires.
Et pourquoi justement c'est si rare que ça ?
En fait, parce qu'une grande partie de la Corse, c'est le terrain géologique, est soit du schiste, soit du granit, ce qui n'est pas extrêmement favorable à la conservation des ossements, que ce soit des ossements de faune ou des ossements humains.
Vous, c'est la première fois, par exemple, que vous fouillez donc des squelettes ici ?
Ben, la première fois, Aléria, en fait, on avait déjà eu Aléria même dans d'autres niveaux de la faune en place, donc on savait qu'à Aléria, la faune pouvait être conservée. Jean Géas avait des squelettes, mais bon, à l'époque, on va dire qu'à l'époque de Jean Géas, on s'attachait beaucoup moins au sujet de la tombe que de nos jours. Hein. De nos jours, le sujet de la tombe a été remis au centre de la sépulture. Donc le mobilier, c'est quelque chose qui accompagne quelqu'un et non pas la partie majeure de la tombe. Et donc du coup, là, c'est aussi ce que le service régional de l'archéologie a voulu aussi bien pointer, c'est qu'il fallait une attention particulière, que nous aurions fait de toute façon, sur les ossements humains et notamment tout ce que ça peut apporter sur les personnes qui sont ensevelies, notamment donc le sexe, l'âge, l'état sanitaire. Et c'est tous ces éléments plus le mobilier qui nous permettront à terme de voir si on a affaire à une population de privilégiés ou sur 130 personnes, si en fait c'est une population, on va dire, moyenne d'Aléria, sans que ce soit ni les plus riches ni les plus pauvres.
Vous avez des enfants ?
Alors on a des enfants, beaucoup moins que ce qu'on pourrait avoir normalement. Hein. Normalement, on devrait avoir quasi que des sujets immatures. On en a quelques-uns, avec des traitements, assez soignés, hein, c'est-à-dire qu'ils sont dans le cadre de sépulture, on a déposé du matériel. Ce sont plutôt, comme dirait ma collègue Catherine, des sujets qui ont entre 1 et 4 ans. Hein, donc on a quelques périnataux, mais vraiment infimes. Bon, d'une part, c'est peu facile à détecter dans la mesure où ils n'ont pas d'aménagement particulier. Donc voilà.
On va avancer vers une deuxième zone, tout petit peu plus loin, une sorte de bâche blanche qui masque absolument toute la fouille qui semble d'ailleurs assez petite. Et on débouche sur quelques marches. C'est comme ça que vous avez trouvé cette tombe ?
Quand nous avons commencé à travailler sur ce chantier, il y a une zone qui est particulièrement bien conservée, qui se situe près de la voie. Et après cette zone très très bien conservée, les labours ont atteint les vestiges archéologiques et donc nous sommes descendus nous-mêmes au décapage un peu plus profondément. Et donc en descendant un peu plus profondément, dans une zone où les sépultures les plus hautes avaient été endommagées, on a pu mettre en évidence la présence d'un creusement avec un remplissage de nature extrêmement différente du sédiment qu'il y avait autour. Et donc là, ayant relu et lu plusieurs fois les publications de Jean Géas, nous nous sommes souvenus qu'il avait noté que ces tombes d'époque étrusque étaient souvent remplies avec un sédiment qui était de nature différente à celui dans lequel elles étaient creusées. Donc du coup, on a décidé de faire un petit sondage et ce sondage a mis en évidence très rapidement qu'il y avait 5 marches. Donc là, nous étions sûrs que nous avons une des tombes comme en avait fouillé Jean Géas dans les années 60 et 80. Donc des marches qui distribuent un couloir et qui amènent normalement à une tombe à chambre souterraine.
Donc, vous avez suivi bien sûr les marches, vous êtes tombé sur une sorte de long couloir et ensuite une sorte de mur qui obturait visiblement la tombe.
Voilà, c'est exact, c'est exactement ça. En fait, ce qu'on voyait bien quand on décapait à l'horizontale, c'était la trace du couloir qui était comblé. Et puis après, la chambre ou la potentielle chambre était noyée dans un sédiment brun dans lequel on n'arrivait à avoir aucun creusement. Le premier sondage qu'on a fait, on a fait à cette limite-là. Et là, nous avons mis au jour le bouchage de la porte en fait, de la petite chambre funéraire.
Alors on s'imagine bien sûr Howard Carter, tout en Cabon est très à la mode en ce moment. J'imagine que c'était tout autre.
Oui, voilà, bien sûr. Beaucoup de collègues me disaient, alors c'est la porte. Je disais, non, c'est un bouchage en terre, comme ça serait un mur de terre d'une maison. Donc il n'y a pas de verrou, pas de lien, pas de seau pour dire, ne rentrez pas, c'est une tombe protégée par des rites magiques. On savait d'expérience, puisque avec mon collègue Roland Orion, nous avions travaillé sur la nécropole de Casabianda, donc nécropole classée monument historique, qui a été renfouie en 2017. Et nous savions comment se présenter quelques bouchages de sépultures fouillées par Jean Géas. Et donc là, nous avons tiré les conclusions que ça ressemblait à beaucoup de certaines d'entre elles. Et donc voilà, nous savions que nous étions sur la fermeture de la chambre.
Alors cette chambre était bien sûr fermée par ce mur, mais visiblement ce mur aurait été fermé, ouvert, fermé, obturé. Voilà, peut-être pour y mettre des individus, peut-être pour y mettre des objets.
Une question qu'on se posait, c'était ce mur en fait n'a pas l'air d'être fait d'une pièce. L'entrée de la porte elle-même est asymétrique, c'est-à-dire qu'on a un petit mur maçonné en argile, en galet lié à de l'argile du côté est, et de l'autre côté, on a plutôt l'impression qu'il y a la trace d'un matériau périssable qui a disparu. Donc on se posait la question sur combien de sujets y a-t-il dans cette tombe. Donc pour l'instant, on pense qu'il n'y en a qu'un, mais c'est une fois qu'on aura fini la fouiller qu'on le verra. Et toutes ces irrégularités dans le bouchage, on peut les mettre soit sur le compte d'ouverture et de fermeture successives, mais On se pose des questions sur le mode du remplissage du couloir aussi, qui paraît être massif. Sinon, on pourrait le mettre aussi sous le compte d'une pratique de fermeture rituelle avec des éléments, parce que les éléments qui servent par exemple à cette fermeture ne sont pas de l'argile pure comme on en trouve à Casabianda avec des briques crues qui sont montées avec un joint d'argile. Ce n'est pas de la terre massive franche comme on en trouve juste à côté, donc une argile rouge qui aurait permis de faire un mur d'un seul tenant. Ça ressemble davantage à ce qu'on pourrait trouver dans la cour d'une maison ou dans une maison même avec donc on peut retrouver des déchets ménagers, donc des fragments de faune, des charbons de bois, des tessons, tout un cortège qui ferait penser à plutôt des choses qui ont rapport avec une activité humaine qu'avec du terrain naturel. Donc après, je ne suis pas spécialiste des Étrusques, mais on se dit qu'à l'époque étrusque, connaissant leur attachement à tout ce qui est rituel, on peut se demander si la fermeture d'une tombe à chambre n'est pas soumise à des rituels avec peut-être des matériaux qui sont mis en œuvre qui ne sont pas n'importe quel matériau.
Alors la chambre est en train d'être fouillée, d'où ce fameux bruit d'aspirateur. On va aller voir.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Laurent Vidal, la tombe commence à être ouverte, à s'ouvrir. Qu'est-ce que l'on voit dedans ?
Alors pour l'instant, on a à peine entrevu le contenu de la sépulture. Donc on sait déjà qu'il y a pour l'instant plus d'une quinzaine de vases. Et donc le sujet au milieu de la tombe qui est assez bien conservé et qui, d'après ma collègue Catherine, semble se présenter sur le côté.
Ce que l'on voit, c'est une sorte de fatras de vases étrusques, assez mal rangé visiblement.
Alors, ils ont l'air assez mal rangés, mais je pense que c'est parce qu'ils étaient disposés et qu'avec le temps, ils se sont effondrés, ils sont tombés sur le côté, mais je pense qu'ils devaient être disposés de façon, on va dire, assez soignée. Alors, à nous, après, de détecter s'il y a une organisation, si les cruches sont plutôt à droite, les skyphos plutôt à côté de la tête, etc.
Un skyphos, c'est quoi ?
Alors, un skyphos, c'est une sorte de grande coupe avec deux petites anses latérales horizontales.
Et tout ça est typiquement étrusque ?
D'après ma collègue Federica Sacchetti, effectivement, les cruches que l'on a là sont des cruches typiquement étrusques, donc fabriquées dans des villes de l'autre côté de la Tyrrhénienne, en Étrurie.
Votre tombe, vous la datez à peu près de quelle époque ?
Alors là, c'est toujours ma collègue Federica qui date à partir de la forme des skyphos et des cruches du 4e siècle avant Jésus-Christ, peut-être plutôt la seconde moitié du 4e siècle.
Donc on serait sur une des tombes les plus anciennes, peut-être même la plus ancienne de la nécropole ?
Eh bien, pour l'instant, oui, effectivement, ça paraît la tombe la plus ancienne de ce secteur-là de la nécropole. On a fouillé pour l'instant environ 200 mètres carrés de la nécropole.
À l'intérieur, visiblement, de très beaux miroirs. On peut penser que ce sont des miroirs en bronze ?
Alors, j'ai l'impression, effectivement, que ce sont des miroirs en bronze. Alors, peut-être un système de miroirs bivalves, qui c'est connu aussi pour l'Antiquité romaine, des miroirs qui s'emboîtent l'un dans l'autre, la surface réfléchissante étant ainsi enfermée à l'abri de l'oxydation.
On connaît ce genre de tombe puisque l'on en a déjà fouillé dans les années 60. Tombe d'homme, tombe de femme, on a une idée déjà ?
Hélas, pour les tombes les plus anciennes, c'est souvent la discrimination sexuelle se fait souvent à partir du mobilier et très peu souvent, comme ce devrait être le cas, à partir des sujets. Et donc là, ce sera pas le cas si le sujet est assez bien conservé. Ma collègue Catherine Arejade pourra déterminer à la fois le sexe, l'âge au décès et surtout l'état sanitaire de la personne ensevelie.
Alors ce qui est étonnant, c'est que l'on a des marches, une sorte de long couloir et puis d'un seul coup, un tout petit espace. Tout ça est minuscule.
Enfin, c'est minuscule, c'est à la taille d'une personne que l'on va mettre en place. Peut-être sur une banquette, hein, parce qu'on a déjà le substrat qui apparaît du côté nord. Et donc peut-être que le sujet est mis en scène sur une petite banquette. Et il y a assez de place pour loger tout le cortège de mobilier. Là, je pense qu'on sera à une trentaine de vases déposés dans cette sépulture.
Un banquet funéraire, bien sûr, avec tout son matériel à vin.
Alors, funéraire probablement, puisqu'on est dans le cadre d'une sépulture, mais qui renvoie à des pratiques, en fait, qui sont des pratiques culturelles, on peut dire, de la bonne société étrusque.
Le fameux banquet antique.
Le fameux banquet antique qu'on retrouve aussi bien chez les Étrusques que chez les Grecs, et voire même que chez les Gaulois.
Tout ce matériel va être minutieusement prélevé, le but absolument ne rien casser, et ensuite faire des analyses, ce que l'on appelle archéométriques.
Voilà, c'est-à-dire que là, ma collègue Federica et moi-même, nous lançons, grâce au financement du fonds FNAP, sur à la fois des analyses à l'intérieur des vases pour savoir quels étaient leurs derniers contenants. Donc ça, c'est des analyses plutôt qui vont chercher à traquer les traces de matière organique conservées dans les vases. Et puis après, probablement plutôt pour les céramiques dites communes qu'on va retrouver, savoir si ce sont aussi des productions étrusques, donc là peut-être des analyses de pâte, ou s'il y a des productions dès cette époque-là qui sont faites sur le territoire même d'Aléria.
Alors reste la grande question, est-ce que l'on est face à un étrusque ou un gaulois, voire un corse ?
Mais là, la question restera peut-être pendante, puisqu'on n'aura pas la carte ADN du sujet, mais on saura qu'il est de culture au moins étrusque. Alors, savoir si c'est un étrusque, un corse étrusquisé ou un grec étrusquisé, puisque Aléria a quand même été un carrefour de plusieurs civilisations, les étrusques, les puniques, les grecs et les corses aussi. Donc, la carte génétique de la personne sera, en l'absence d'analyse ADN et de parallèles possibles, se restera encore pour l'instant un peu inconnu.
Alors, reste bien sûr à finir la fouille, puisque là, on ne voit qu'émerger les objets qui sont encore dans leur gang. On ne voit pas les dessins sur les pots. Qu'est-ce que l'on pourrait avoir d'ailleurs comme dessin ?
Mais sur les cruches notamment, ce type de cruche, Jean Géas en avait trouvé plusieurs. On peut avoir donc des scènes figurées, soit des petites scènes donc qu'on trouve sur les vases de cette époque-là, ou alors souvent on retrouve des visages féminins, donc avec notamment le chignon et le visage qui est peint en blanc, donc un rehaut qui est peint sur la céramique. Donc c'est pour ça que ma collègue Marina Biron, donc conservatrice restauratrice, applique un produit de façon à garder le maximum de cette couche pigmentaire qui est déjà bien abîmée par le séjour dans la terre.
Vous rêvez à quoi au fond ? Puisque c'est quand même un espace où on peut rêver. Vous vous attendez à quoi ? Qu'est-ce que vous aimeriez ?
Ben moi, en particulier, j'aimerais pouvoir reconstituer exactement le dispositif funéraire, savoir si cette personne était dans un simple appareil sur la banquette ou si elle était dans un linceul. Et ça, bon, je pense que ce seront les travaux de ma collègue Catherine Rijade qui le détermineront au possible, si c'est possible. Donc pouvoir restituer l'ensemble du dispositif funéraire.
Dominique Garcia, nous avions attendu plus de 50 ans pour découvrir une grande tombe de l'âge du fer, une tombe princière, la fameuse tombe de Lavaux, par rapport bien sûr à celle de Vix. Ici, à Aléria, on aurait aussi attendu des décennies avant de trouver enfin une tombe étrusque.
Alors des décennies pour enfin dévoiler une tombe étrusque et surtout la fouiller avec des moyens modernes pour pouvoir contextualiser les découvertes plus anciennes réalisées dans l'île. Les Étrusques sont un des grands peuples de la Méditerranée pré-romaine. Ils étaient présents sur le secteur d'Aléria dès le 6e siècle avant Jésus-Christ. La ville était bien connue, l'espace intramuros est exploré. Et en revanche, la nécropole, elle, fouillée anciennement, avait livré des vestiges qui n'avaient pas été totalement mis en perspective. Là, la récente fouille de la Majone permet sur la durée, d'ailleurs, avec des tombes du 4e, mais également du 3e, une deuxième siècle avant Jésus-Christ, d'avoir un aperçu des modes de vie, des rituels, des populations étrusques et puis étrusco-romaines.
C'est assez étonnant ce modèle de tombe, ce que l'on appelle un hypogée.
Alors cette tombe souterraine à un hypogée est relativement originale. C'est un unicum fouillé de cette façon-là. En Étrurie, on les connaît. C'est un des grands couloirs, un dromos, qui permet d'accéder à une chambre souterraine, généralement creusée dans le tuf entre le Tibre et l'Arno. Ici, elle est creusée dans un sédiment calcaire qui malheureusement n'a pas permis la conservation de la voûte, mais l'ensemble, le dépôt funéraire, lui, est bien conservé. Donc on a 6 marches, un dromos, un couloir de 6 mètres de long, et puis l'hypogée dans lequel, fouillé en stratigraphie, on a pu retrouver les restes humains et les dépôts funéraires.
On est sur une sorte de mini Tarquinia.
On est sur un tout petit mini Tarquinia, mais le seul document sur le territoire national permettant d'analyser finement une tombe étrusque.
Qu'est-ce que l'on a d'ailleurs comme vestige étrusque, hormis bien sûr échanger avec les Celtes, mais qu'est-ce que l'on a comme implantation étrusque en France ?
Alors, les seuls endroits où il y a une ville réellement étrusque implantée, c'est ici à Aléria. Ensuite, bien entendu, si les Étrusques se sont implantés en Corse, c'est pour pouvoir maîtriser des activités commerciales dans toute ou partie de la Méditerranée occidentale. Donc, ils étaient présents à Marseille, ils étaient peut-être nombreux dès la première moitié du VIe siècle à Marseille. En tout cas, le commerce étrusque était dominant à Marseille avant 550 avant Jésus-Christ. Ils étaient non loin de là, dans le secteur de Martigues-Saint-Blaise. Ils étaient à Lattes, où dernièrement, on a pu fouiller une maison avec à l'intérieur du mobilier étrusque, donc on avait là des commerçants étrusques implantés dans un comptoir celte, alors qu'à l'Alia, ils étaient totalement chez eux. Et puis, on a des découvertes sous-marines au large de Florensac, un très beau trépied, probablement produit à Vulci, qui a été retrouvé grâce à l'archéologie sous-marine, et à Sète, un casque étrusque aussi, qui montre en fin de compte ces témoignages de ce commerce étrusque, tout en bordure du golfe du Lion.
Alors ce commerce, il est bien sûr très bien implanté, vers 540 exactement, tout semble changer.
Alors tout semble changer parce qu'il y a une bataille navale qui a lieu ici, c'est la bataille d'Alalia, dans lequel Étrusques et Phéniciens s'affrontent à une flotte grecque, et bien entendu les Phocéens vont prendre de la place et vont assurer une suprématie dans cette partie de la Méditerranée occidentale. Donc on a là en fin de compte, un conflit entre ces populations méditerranéennes, dont la bataille d'Alalia va un petit peu sceller la fin du monopole ou de la maîtrise de cet espace maritime.
Ensuite, les Étrusques seront plus localisés dans leur commerce ?
Voilà, ils seront la mer, en fin de compte, voilà, pour reprendre le titre de Jean Guilaine, la mer va être partagée. D'une mer qui va être parcourue par ces bateaux dans tous les sens, et voilà, les trafics tyréniens archaïques, chers à Michel Gras, on va arriver à un espace méditerranéen plus cloisonné, avec des aires d'influence.
Cette tombe, c'est la tombe d'un Étrusque ou d'un Corse étrusquisé ?
Toujours difficile d'aborder les éléments ethniques. Là, quand même, le plan de la sépulture, le mobilier qu'on retrouve à l'intérieur, va plutôt dans le sens d'une tombe d'un Étrusque, en tout cas quelqu'un qui vivait comme un Étrusque et qui mourait comme un Étrusque.
En tout cas, sûrement pas gaulois.
Non, certainement pas gaulois. Voilà, donc même sur notre territoire national, tous les pré-romains ne sont pas des gaulois.
Cette tombe, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un moment important pour l'archéologie corse ? Une sorte d'archéologie qu'on sent un peu monter en puissance ?
Alors, il est évident aujourd'hui que sous l'égide de la DRAC, les prescriptions sont plus nombreuses, donc on est plus attentif à la destruction du patrimoine et donc à sa sauvegarde par l'étude. Et cette tombe permet à la fois d'illustrer le dynamisme de l'archéologie préventive en Corse, mais aussi le renouveau des études, parce qu'est lancé sous l'égide du ministère de la Culture un projet collectif de recherche qui associe le CNRS, l'ENS, l'université, des associations, des chercheurs du ministère de la Culture. Donc on sent le renouveau d'une archéologie corse, donc le renouveau d'une archéologie méditerranéenne sur une thématique essentielle auquel l'archéologie préventive peut participer.
Et les Étrusques ont un rôle à jouer dans ces problématiques ?
Ah, bien entendu. Les Étrusques, c'est une problématique qui est partagée par les chercheurs italiens, par les chercheurs français, mais également les chercheurs allemands, anglais, etc. Donc on a là un véritable, avec Alaria et la Corse, on a un laboratoire de recherche à ciel ouvert que l'on pourra exploiter dans les années à venir et qui peut permettre un rayonnement de la recherche scientifique du pays.
Aujourd'hui, donc, la tombe n'est pas encore dégagée. On voit juste émerger quelques miroirs, quelques très belles poteries étrusques. Tout ça, c'est en devenir. Il faut les étudier, les restaurer.
Alors, le plus gros effet, c'était le repérage de la nécropole, c'était la fouille attentive, c'était l'obtention des moyens permettant de la fouiller proprement. Ici, sur le terrain, nous avions des spécialistes, des anthropologues, des restaurateurs, des topographes qui ont suivi l'opération de manière extrêmement fine. Et ensuite, voilà, maintenant quelques mois pour pouvoir étudier l'ensemble de ce matériel et peut-être voilà, mettre en place une exposition ici en Corse pour rendre à la population le résultat de ces découvertes.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique, Philippe Mercher et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 partira en terre russe pour découvrir avec Marcelotte un site exceptionnel, Soungir.